Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. La gauche reprend le pouvoir en Norvège. Les travaillistes ont remporté hier les législatives après une campagne dominée par la question du climat et de l'avenir du pétrole, la richesse du pays. Le travailliste Jonas Gahr Støre devrait devenir le prochain Premier ministre, mais en fonction des résultats définitifs, il devra sans doute composer avec certains partis favorables au ralentissement de la prospection pétrolière et gazière. Parmi eux, les Verts, qui veulent fixer la sortie des hydrocarbures à 2035. À Stavanger, capitale du pétrole, sur la côte sud-ouest du pays, c'est un sujet particulièrement sensible. Reportage de notre correspondante Anne-Françoise Hiver.
Avec ses maisons de bois et ses étroites ruelles pavées, Stavanger ressemble à un petit village de pêcheurs au bord de la mer du Nord. Mais sur les quais, les immenses navires de ravitaillement des plateformes pétrolières ont depuis longtemps remplacé les bateaux de pêche. Dans le port, le musée du pétrole revient sur la formidable épopée qui a fait du pays scandinave une richissime pétromonarchie. Aujourd'hui, les énergies fossiles pour la Norvège, c'est 14% du PIB, 20% des exportations et 150 000 emplois. Une bonne partie se trouve dans la région de Rogaland, autour de Stavanger. Ici, on a du mal à imaginer la fin de l'heure noire dans un futur proche. Lycéenne de 18 ans, Aurora Kalverg est la présidente de l'association Nature og Ungdom, Nature et Jeunesse à Stavanger.
C'est une ville où tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans le pétrole. Du coup, la discussion est beaucoup plus personnelle qu'ailleurs en Norvège. Moi, j'ai un grand-père et mon oncle qui travaillent offshore. En général, quand nous discutons, ils me disent que ce sont leurs emplois qui sont en jeu et que l'industrie fait plus de choses qu'on ne croit pour la transition énergétique. Je leur réponds que je voudrais que ça aille plus vite.
Oddvar Carlsen, 64 ans, a travaillé plus de 20 ans offshore sur les plateformes comme électricien. Aujourd'hui, il est vice-président du syndicat Industrie Énergie chez Equinor, le géant norvégien du pétrole. Il rappelle ce que les hydrocarbures ont apporté au pays dont on se souvient, à Stavanger, qu'il était un des plus pauvres d'Europe avant la découverte des premiers gisements.
Le pétrole a été très important pour le développement de la Norvège. On peut le voir au niveau des infrastructures, l'immobilier, mais aussi les services publics dont on dispose au niveau des communes.
Pour lui, fermer le robinet est une très mauvaise idée. Mais même à Stavanger, les opinions évoluent. Selon un sondage réalisé par le journal local fin août auprès des habitants, ils sont désormais 34% à vouloir ralentir l'exploration contre 26% en mars dernier. Klaus Mohn est président de l'université de Stavanger. Économiste, ancien salarié d'Equinor, il assure que le dernier rapport du GIEC, publié début août et qualifié d'alerte rouge pour le climat, a marqué les esprits en Norvège.
Avant, les politiques s'efforçaient de séparer le sujet du climat et celui du pétrole. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils sont obligés de considérer ces deux politiques ensemble.
L'attitude est aussi en train de changer chez ces étudiants. Les inscriptions au master d'ingénierie pétrolière ont tellement baissé que l'université a dû réduire de moitié le nombre de places ces cinq dernières années. Dans les entreprises aussi, la remise en cause a commencé. Hélène Thunander, suédoise, a travaillé 12 ans chez un fournisseur de grosses entreprises pétrolières. Elle vient de changer d'emploi pour travailler dans une société d'équipement médical.
Je sais que le pétrole n'est pas une ressource durable. Nous détruisons notre planète en le produisant. Quand je retourne en Suède, où les gens ont une autre façon de considérer le pétrole et le gaz, je sens que je n'ai pas vraiment envie de parler de mon travail, alors que c'est beaucoup plus accepté en Norvège. J'ai eu un peu honte de travailler dans l'industrie pétrolière.
Alors qu'attendre de ces prochaines années ? Pour le moment, il n'est pas question de renoncer aux énergies fossiles qui ont rapporté plus de 1200 milliards d'euros à la Norvège. La prospection, par contre, pourrait ralentir. Les risques financiers deviennent trop importants pour les entreprises, conscientes que l'avenir des hydrocarbures est compté.
126 migrants ont été secourus en mer entre la France et l'Angleterre et ramenés en France par la Marine nationale. C'était le week-end dernier. Dans la semaine, plus de 1000 personnes avaient traversé la Manche jusqu'au littoral anglais. Une situation inquiétante. Les autorités dénombrent en effet 11 morts depuis le début de ces traversées. Le ton est monté entre Londres et Paris, qui reçoit de l'argent du Royaume-Uni pour contrôler les frontières. Les Britanniques menacent de refouler les embarcations de fortune. Mercredi dernier, les ministres de l'Intérieur se sont rencontrés en marge d'une réunion du G7. Les explications de notre correspondante à Londres, Marie Billon.
C'est un sujet qui passionne l'Angleterre du Brexit. Les électeurs ont en partie voté out pour reprendre le contrôle des frontières, comme le disait le slogan. Certains Britanniques, comme David, partagent la frustration de Londres face aux traversées en augmentation.
Il y a une limite au nombre de personnes qu'on peut accueillir, parce qu'ici, il y a déjà des gens qui n'ont pas de logement et pas d'emploi.
D'autres, comme Paul, comprennent la position de Paris comme celle des migrants.
La côte française est très longue. C'est impossible de patrouiller partout et d'arrêter toutes les tentatives de traverser parce qu'il y a tellement d'endroits où les gens peuvent se cacher. Pendant ce temps-là, on n'aborde pas le vrai problème. Pourquoi ces gens éprouvent-ils le besoin de traverser la Manche ? On nous présente ça comme un problème qui nous concerne seulement nous, les Britanniques. Sauf que ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout.
Le gouvernement britannique veut en effet éviter que l'augmentation du nombre des traversées soit vue comme un échec des promesses du Brexit. Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, a donc tapé du poing sur la table après avoir menacé indirectement les Français de ne pas leur verser la rallonge de 60 millions d'euros convenue cet été pour les aider à renforcer la patrouille du littoral. Elle a annoncé qu'elle avait donné l'autorisation à ses gardes-côtes de refouler les embarcations, de les renvoyer vers les eaux et les côtes françaises. Lucie Morton, représentante du syndicat des agents des frontières et de l'immigration, a parlé à la BBC.
En réalité, ça m'étonnerait qu'une seule embarcation soit refoulée. On ne peut pas renvoyer un bateau en état de vulnérabilité. Et surtout, il faut le consentement de la France. Parce que l'embarcation entre alors à nouveau dans les eaux françaises. Ses gardes-côtes doivent l'intercepter et l'accompagner. Et les Français n'ont pas l'intention de le faire.
Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, a en effet précisé que l'emploi de cette tactique pourrait avoir des conséquences négatives sur la coopération entre les deux pays. Ce refus de la France permet à certains députés de la majorité, comme Tim Loughton, lui aussi sur la BBC, de blâmer un peu plus l'Hexagone.
On paye une rallonge de 60 millions d'euros aux Français pour qu'ils contrôlent le littoral et la situation empire. Plus on donne d'argent aux autorités françaises, plus elles créent des problèmes.
Mais Bridget Chatman, de l'association d'aide aux réfugiés du Kent, le CRAN, estime que le gouvernement britannique en demande trop aux Français.
Pourquoi la France devrait-elle accueillir encore plus de gens sur son sol? Elle en a déjà accueilli 3 fois plus que le Royaume-Uni. En plus, ces personnes veulent venir au Royaume-Uni pour des raisons précises. Ils ont peut-être de la famille ici, où ils savent qu'il y a de nombreux membres de leur communauté. Et puis, beaucoup viennent ici parce que la Grande-Bretagne a eu de nombreuses colonies et qu'ils parlent anglais. Le problème, c'est uniquement le gouvernement britannique qui refuse de prendre ses responsabilités et qui refuse d'accueillir un nombre équitable de personnes qui ont besoin d'un sanctuaire. Sous prétexte qu'on est une île, ils veulent qu'on devienne une forteresse.
Le Royaume-Uni étudie aussi l'option d'envoyer les demandeurs d'asile dans un pays tiers le temps que leur demande soit étudiée. Le but reste le même pour Londres, rendre la traversée de la Manche sans intérêt pour les migrants comme pour les passeurs.
Un nouveau mur en Europe. Il va séparer la Pologne de la Biélorussie. Le gouvernement polonais ultra-conservateur de Mateusz Morawiecki a ordonné sa construction pour interdire l'arrivée de migrants du Moyen-Orient qui transitent par Minsk. En visite à Varsovie, la chancelière allemande a appelé samedi la Biélorussie à aider les migrants au lieu d'essayer de les envoyer dans l'Union européenne. Et elle a redit que les organisations humanitaires devaient pouvoir leur venir en aide, tout en appelant la Pologne à rester ouverte. En vain, l'état d'urgence a même été décrété dans près de 200 localités polonaises frontalières, ce qui interdit notamment leur accès aux médias, aux grandes dames des humanitaires à Varsovie. Les explications de Damien Simonard.
La situation n'est pas sans rappeler celle de 2015 en Hongrie. En pleine crise migratoire, Viktor Orban, premier ministre hongrois à la tête d'un gouvernement populiste, avait fait construire un mur à sa frontière avec la Serbie pour empêcher les migrants d'Afrique du Nord de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne. Très proche de Budapest, Varsovie en fait aujourd'hui de même à sa frontière avec la Biélorussie, réagissant ainsi à l'augmentation soudaine du nombre de migrants qui traversent illégalement la frontière biélorusse avec les pays baltes et la Pologne. Le gouvernement polonais accuse le régime d'Alexandre Loukachenko de mener une attaque hybride en encourageant ses migrants du Moyen-Orient à traverser la frontière. Depuis près d'un mois, un groupe d'une trentaine de personnes y est coincé, encerclé d'un côté par les gardes-frontières polonais et de l'autre par les Biélorusses. Les ONG polonaises n'ont pas d'accès à ces migrants pour leur donner des vivres, sous prétexte qu'ils sont du côté biélorusse. Pour mieux surveiller la zone et éviter tout débordement, le Parlement polonais a décrété l'état d'urgence pour un mois dans 183 localités le long des 400 km de frontière avec la Biélorussie, une mesure qui interdit par conséquent aux journalistes de se rendre sur place. L'association Press Club a immédiatement protesté contre, je cite, « la privation de l'opinion publique provenant de sources indépendantes », fin de citation, et accuse le parti populiste PiS d'utiliser la question migratoire pour remonter dans les sondages. La société polonaise est quant à elle partagée sur la question, mais d'après un récent sondage, la majorité des Polonais est favorable à la construction du mur, tout comme à l'instauration de l'état d'urgence.
La victoire des talibans en Afghanistan le mois dernier a ravivé la question de l'accueil des réfugiés au sein de l'Union européenne, mais aussi en Turquie, pays qui accueille près de 3 700 000 Syriens, notamment suite à un accord avec Bruxelles. Anticipant un possible afflux de réfugiés fuyant les mollahs, les autorités turques multiplient les arrestations ces dernières semaines, poussant des centaines de milliers d'Afghans clandestins à vivre dans la peur. Et elle vise notamment les chiffonniers afghans, très nombreux à Istanbul. C'est un reportage de notre correspondante Anand Lauer.
En pleine nuit, à environ 3 heures le 21 août dernier, la préfecture d'Istanbul a lancé une opération inédite en son genre. À Bakırköy et Ümraniye, deux banlieues éloignées dans l'ouest et l'est de la ville, des centaines de policiers ont mené des descentes dans des centres de collecte de plastique usagés, là où travaillent et vivent parfois les chiffonniers d'Istanbul. Cette nuit-là, 286 collecteurs d'emballage ont été verbalisés. Parmi eux, 145 Afghans, aussitôt transférés vers un centre de rétention. Moubine, un Afghan de 20 ans, a échappé aux arrestations. Mais l'entrepôt de son patron a dû fermer et son chariot a été saisi.
Depuis bientôt un mois, je ne peux pas travailler, je reste chez moi. J'ai essayé une fois de travailler, mais des policiers municipaux m'ont tout de suite fait signe de partir en disant que ce que je faisais était interdit à Istanbul, que c'était la mairie qui ramassait et triait les poubelles. Depuis presque un mois, j'ai à peine de quoi manger. Heureusement que mon patron m'aide. Il a bien voulu me faire crédit.
Moubine a quitté l'Afghanistan pour la Turquie tout seul à l'âge de 11 ans. C'est la première fois qu'il se retrouve sans revenu pendant si longtemps. Sa mère, sa sœur et son frère, restés à Kaboul, attendent de ses nouvelles.
Comme je ne travaille plus, je ne peux plus leur envoyer d'argent, alors que je sais qu'ils en ont besoin, et pour des choses aussi essentielles qu'acheter du pain. Au moment des évacuations à Kaboul, ma famille a essayé de fuir, mais à l'aéroport, les soldats américains ne les ont pas laissés passer, alors ils sont rentrés chez eux.
Ces trois dernières années, les Afghans sont, de très loin, les plus nombreux à entrer illégalement en Turquie. Entre janvier 2018 et septembre 2021, les autorités ont arrêté 394 000 Afghans en situation irrégulière. Des centaines de milliers d'autres vivent dans le pays sans être enregistrés. Et beaucoup, comme Moubine, vont de petit boulot en petit boulot, sur les chantiers, dans les champs et ailleurs. Ils sont de plus en plus visibles parmi des chiffonniers. Mahmoud, un Turc qui fait ce métier depuis 4 ans, estime que les dernières opérations de police étaient un coup de communication.
Les autorités font ça pour dire à l'opinion, vous voyez, on ne laisse pas travailler les étrangers, on ne laisse pas travailler les Afghans. Mais en faisant ça, elles s'attaquent au gagne-pain de citoyens turcs. Moi, je n'ai pas peur de dire que nous pourrions aider les autorités à arrêter les Afghans, à les empêcher de travailler. Vous seriez d'accord, vous, pour partager votre salaire ? Nos revenus ont baissé depuis que les Afghans font ce travail. Ceux qui gagnaient 300 euros par mois en gagnent 200 aujourd'hui. C'est encore plus grave en ce moment, avec les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Dans cette période où l'on doit se serrer la ceinture, la présence des Afghans est un gros problème pour nous.
Mahmoud se demande toutefois si, au-delà du coup de com', les opérations de police n'auraient pas également pour but d'empêcher tous les chiffonniers de travailler en utilisant les migrants comme un prétexte facile.
La préfecture prétend que nous salissons l'environnement, que nous travaillons illégalement et que des étrangers non déclarés en profitent pour travailler. Mais ce n'est pas nous qui sommes allés chercher ces étrangers aux frontières de la Turquie pour les ramener à Istanbul. Leur présence est le résultat des politiques migratoires actuelles. Il y en a qui veulent passer par la Turquie pour aller en Europe, d'autres qui veulent rester en Turquie. Mais on n'est pas le gouvernement, on ne peut pas leur dire de rester ou de partir. Et puis franchement, les Afghans sont partout, alors pourquoi s'en prendre aux chiffonniers ? Ce n'est pas ma faute s'ils ramassent des plastiques et des cartons dans des poubelles situées sur la voie publique.
La victoire des talibans en Afghanistan a ravivé le débat sur la présence des réfugiés et la crainte d'un nouvel afflux en Turquie, un pays qui accueille déjà près de 3 700 000 Syriens. Mohamed Sedek Yachar, fondateur d'un réseau de solidarité avec les migrants, craint un durcissement des autorités dans les mois à venir.
Peut-être que le pouvoir fait ça pour répondre à l'opposition qui s'en prend chaque jour aux migrants. Peut-être qu'il agit ainsi en prévision des prochaines élections. Chez les chiffonniers qui sont très visibles dans l'espace public, les autorités multiplient les arrestations parce qu'elles veulent que les locaux voient le moins possible les migrants. Le résultat de tout ça, ce que j'entends de la part de tous les Afghans, c'est qu'ils vivent dans l'inquiétude, la peur d'être renvoyés dans leur pays. Donc beaucoup restent chez eux, ne vont plus travailler. Mais quand vous n'êtes enregistré nulle part, vous n'avez aucun droit, sauf celui de mourir de faim. Et le soutien d'initiatives citoyennes comme la nôtre, ce n'est rien du tout, même pas une goutte d'eau dans la mer.
Officiellement, 180 000 Afghans vivent légalement en Turquie. C'est le cas depuis 3 mois du jeune chiffonnier Moubin, qui a obtenu un permis de séjour après 9 ans de clandestinité. Ils sont extrêmement rares à y parvenir ou à bénéficier du statut de réfugié. En fait, la Turquie n'accorde pas ce statut aux Afghans. Quant au permis de séjour, il oblige à présenter des garanties financières. Moubin explique qu'il doit son permis à son patron turc, un homme qui l'a pris sous son aile.
Les Turcs, les Kurdes, ce sont des gens bien. Je ne connais aucun pays qui accepterait d'accueillir autant d'étrangers si démunis. Moi, je ne veux pas du tout aller en Europe. Et d'ailleurs, l'Europe ne veut pas des Afghans.
Le rêve de Moubin, c'est de faire venir sa famille en Turquie, notamment sa mère et sa sœur, qui n'ont pas mis un pied hors de chez elles depuis que les talibans sont entrés dans Kaboul.
Девушка бродит, одна по пустыне.
Aucun répit pour les opposants en Biélorussie. Maria Kolesnikova, 39 ans, l'une des grandes figures de la contestation de l'été 2020, a été condamnée à 10 ans de prison le 6 septembre, entre autres pour complot visant à s'emparer du pouvoir. Elle refusait de quitter son pays tout en étant parfaitement consciente des risques encourus. Elle l'avait expliqué sur les antennes de RFI. La peine lui a été infligée à l'issue d'une audience à quasi huis clos. Carlotta Morteo nous brosse son portrait.
Souriante à l'audience, frondeuse, elle dessine des cœurs avec ses mains en direction des quelques journalistes présents acquis au pouvoir. Optimisme et détermination, voilà sa marque de fabrique, selon Robert Biedron, qui la connaît bien. Il est eurodéputé polonais, président de la délégation pour les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie, un soutien indéfectible au mouvement d'opposition biélorusse.
C'est une personne très chaleureuse qui peut sembler délicate de par son comportement tout en douceur. Mais à l'intérieur, c'est une femme très forte et c'est pour cela que j'ai beaucoup milité pour qu'elle obtienne le prix européen Sakharov. Pour son courage, Maria a pleinement conscience que le peuple biélorusse doit sentir la force de ses leaders.
Rien ne prédestinait a priori cette flûtiste et chef d'orchestre de 39 ans, look moderne et coupe de cheveux rasée de près à devenir cette icône politique. Quoique, après une carrière en Allemagne, elle devient directrice d'un club culturel à Minsk en 2017, où elle donne par exemple une conférence sur Beethoven et les Pussy Riot, groupe punk rock féministe russe connu pour ses protestations contre le président Vladimir Poutine. C'est ce que souligne son ami Ivan Kravtsov, au cadre de l'opposition, exilé en Ukraine.
Elle considère l'art comme une forme d'activisme. Pour elle, la culture est directement liée à une problématique civique et donc politique. Les gens comprennent très bien ce que signifie la condamnation de Maria. Elle le fait, comme tous ceux qui en payent le prix aujourd'hui, pour l'avenir de tous.
L'opposition estime que Maria Kolesnikova ne purgera pas entièrement sa peine de 12 ans puisqu'ils espèrent voir le régime de Loukachenko tomber au plus vite.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver votre émission sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de RFI, bien sûr, à la page podcast. À bientôt.